Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on peut se passer du concept d'aliénation lui-même, et ceci pour plusieurs raisons. D'abord, c'est le moyen, tout en conservant à l'esprit les différenciations et les distinctions nécessaires, de réunir tous les aspects multiformes et spécifiques qui concernent aussi bien la superstructure que les structures et de les penser ensemble. Ce concept a quelque peu la portée d'un médiateur tout à fait indispensable dans les sciences humaines de plus en plus parcellisées. À condition d'en limiter les ambitions théoriques, d'en préciser le sens, elle reste d'autre part indispensable pour penser les expériences socialistes en cours. Dans nos luttes d'aujourd'hui, elle est aussi le moyen de relier ensemble les diverses luttes spécifiques dans et hors de la production. On doit la conserver parce qu'on ne peut pas supprimer d'abord tout le capital. Dans les Grundrisse comme dans le capital, l'aliénation demeure parmi les concepts centraux sous ses différentes formes. En allemand, Enthausung, Entfremdet, Entfremdung, etc. Les mots composés à partir de Hauser, qui signifie en allemand externe ou extérieur, servent à marquer le dessaisissement, la séparation, l'autonomisation et la sclérose. Les mots composés à partir de Fremd, qui signifie étranger, permettent de désigner les rapports entre les personnes qui recouvrent des rapports de classe. Ils permettent de désigner le processus de dépouillement, d'asservissement des hommes par les produits de leurs activités, devenues puissances étrangères et qui prennent la forme de domination d'une classe exploiteuse sur une autre. C'est bien entendu les mots de la famille de Fresnes qui deviennent principaux. En français, il y a un certain appauvrissement, car tous ces mots différents en allemand ne peuvent recevoir qu'une seule et unique traduction, aliénation. Dans son noyau fondamental, dans la théorie marxiste de la maturité, l'aliénation est le mouvement historique transitoire par lequel les produits objectivés de l'activité sociale humaine n'atteignent un développement universel qu'au prix d'un divorce avec les individus qui en sont pourtant la source, divorce qui confère à ces produits sociaux, conditions ou rapports, le caractère non seulement de choses méconnaissables, mais plus encore de puissances dominatrices et écrasantes. En ce sens, on peut dire que le concept d'aliénation a une consistance scientifique, il repose sur des théories scientifiques et il renvoie à des données scientifiques. Mais il est, comme nous l'avons vu, nous avons dit qu'il n'expliquait rien en lui-même, qu'il était incapable à lui tout seul, par exemple, de produire la théorie de la genèse ou de la formation ou l'exposé de la théorie du mode de production capitaliste, il n'explique rien en lui-même, il est d'un autre ordre de généralité que les concepts scientifiques proprement dits. On pourrait dire que c'est une catégorie philosophique, comme par exemple la catégorie philosophique de matière. Mais cela ne veut pas dire pour autant, on l'a déjà expliqué, qu'on peut pour autant s'en passer. Entre Marx et Hegel, il y a mutation. Le concept d'aliénation chez le Marx de la maturité n'est plus le concept hegelien, feuerbachien, purement philosophique. Bon, c'est pareil pour le concept de négation de la négation. Il n'y a pas continuité entre Marx et Hegel. Mais il n'y a pas non plus liquidation. Il y a un retournement, un renversement, qui n'est d'ailleurs pas forcément achevé, pas plus que n'est achevée la fin de la philosophie par sa réalisation. Alors je voudrais terminer en montrant surtout que le socialisme autogestionnaire ne peut pas accepter cette idée développée par Althusser de la coupure absolue entre Marx et Hegel, de la liquidation totale de l'héritage dialectique de Hegel, en particulier de la suppression de catégories comme celle d'aliénation ou de négation de la négation. En liquidant l'aliénation, en éliminant aussi la théorie, en éliminant hors de la théorie les hommes qui font l'histoire, Althusser problématise à l'extrême la nécessité de la lutte de classe et de la révolution d'une part, et d'autre part, l'unité entre la théorie et la pratique révolutionnaire. En effet, ne subsiste plus, après son opération chirurgicale, que des concepts, rapports de production, développement des forces productives, etc., concepts qui sont les véritables sujets de l'histoire. Les hommes, eux, n'agissent pas en tant que tels, mais uniquement en tant que support abstrait de ces structures abstraites. Or, dans la réalité pratique de la lutte de classe, on a affaire à des hommes concrets, réels. En faisant disparaître le point de vue des hommes qui font l'histoire et celui d'aliénation, Althusser mutile le marxisme et menace de le rendre peu opératoire pour mener le combat révolutionnaire, la lutte des classes, qui, comme le disait Marx dans une lettre qui indiquait comment il voulait finir le Capital, qui reste un ouvrage inachevé, la lutte des classes, c'est-à-dire la conclusion de toute cette merde. Le point de vue de l'aliénation permet au contraire de comprendre ce que disait le manifeste. La bourgeoisie produit ses propres fossoyeurs, elle n'a pas seulement produit les armes qui la mettront à mort, elle a produit aussi les hommes qui manieront ces armes, les prolétaires modernes. Pourquoi ? Eh bien, à cause du jeu des lois immanentes de la production capitaliste, pour se réaliser, pour vivre, les prolétaires doivent lutter contre les rapports sociaux qui les oppressent, qui les aliènent, les rapports d'exploitation et d'oppression. Le concept permet de comprendre non seulement pourquoi les prolétaires luttent, mais en même temps de comprendre les obstacles qui se dressent contre ce mouvement lui-même, les écrans qui empêchent les prolétaires de connaître la situation qu'il est la leur et ce qu'il faut exactement détruire, ainsi que les moyens qu'il faut utiliser pour lutter. En faisant disparaître le point de vue des hommes qui font l'histoire et celui de l'aliénation, Althusser risque de mutiler considérablement également le radicalisme révolutionnaire du communisme que le socialisme autogestionnaire représente aujourd'hui. Une théorie qui ne prend plus en compte les hommes qui font l'histoire, qui ne voit en eux que les marionnettes des rapports de production, totalement incapables d'initiatives historiques et de connaissances réelles, débouche nécessairement sur une conception ultra-autoritaire de la transition au socialisme, sur une conception qui rompt avec l'idée marxiste d'auto-émancipation du prolétariat, avec l'idée selon laquelle le socialisme sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, sans laquelle la notion même de dictature démocratique du prolétariat perd tout son sens. Une théorie qui ne relie plus, par le concept d'aliénation, les différents aspects qui oppriment les hommes, ôte sa radicalité à la définition marxiste du communisme, c'est-à-dire une réunion d'hommes libres, travaillant avec des moyens de production communs et dépensant d'après un plan concerté leurs nombreuses forces de travail comme une seule et même force de travail sociale, l'œuvre d'hommes librement associés, agissant consciemment et maîtres de leur mouvement social. Une société qui se donne pour tâche de mettre fin au morcellement des individus, à toutes les aliénations, qui entend promouvoir un individu intégral. Une telle théorie, en effet, laisse complètement de côté tout ce qui ne touche pas directement à la question de l'exploitation. Par exemple, celle du développement des forces productives, celle de la division sociale et technique du travail, celle des formes politiques et idéologiques de domination. Et évidemment, cette théorie laisse également de côté les luttes à mener sur ces terrains. Le socialisme autogestionnaire constitue au contraire une tentative actuelle pour poser, dès la phase de lutte contre le capitalisme, tous les problèmes de la transition au communisme, sans séparer la lutte contre l'exploitation capitaliste de ses formes économiques, domination du travail mort sur le travail vivant, division sociale du travail, nature du développement des forces productives, etc., sans la séparer non plus de ses conditions idéologiques, culturelles et politiques. Ce socialisme autogestionnaire ne peut donc pas se servir d'une théorie qui liquide le point de vue de l'aliénation, c'est-à-dire celui du combat global pour changer la vie jusqu'au niveau le plus profond, c'est-à-dire celui de la vie quotidienne. La théorie d'Althusser conduit encore à mal poser les problèmes de l'unité populaire et des alliances de classe. En effet, à partir d'une théorie qui s'est donné tout son sens marxiste à la problématique de l'aliénation, il est possible de poser les problèmes des alliances de classe tout autrement que sous la forme du front antimonopoliste. Il existe toute une série de couches ou de catégories qui subissent différentes formes d'aliénation spécifiques qui ne peuvent trouver leur solution, leur dépassement, que dans le socialisme autogestionnaire. C'est ainsi qu'on peut définir une stratégie socialiste offensive dans les luttes hors de la production, dans l'urbanisme, l'écologie, etc. Et des formes de convergence offensive et socialiste entre les luttes ouvrières et les luttes des femmes pour leur libération, les luttes spécifiques de la jeunesse, des minorités nationales, etc., etc.
Ici, je résume un petit peu ce que tu viens de dire au sujet de l'humanisme. Enfin, l'humanisme, c'est toute théorie qui affirme qu'il y a une essence humaine permanente, qui serait aliénée, qui se réaliserait par la révolution. Bon, c'est ça l'humanisme. Or, j'ai noté tout à l'heure que tu as dit la révolution, c'est la réalisation, la révolution chez Marx, c'est la réalisation des hommes tels qu'ils sont. Alors, est-ce que, derrière cette formule, il n'y a pas tout simplement un retour à l'humanisme le plus classique, c'est-à-dire une référence à la notion d'une essence humaine que les hommes auraient perdue, qui resterait au fond d'eux-mêmes et qu'ils retrouveraient justement en se libérant de l'oppression, du carcan de la société capitaliste.
Oui, mais j'ai compris ce que tu viens de dire, mais ça relève tout simplement d'une boulette que j'ai faite tout à l'heure, parce que ça a été... j'ai été un peu cassé, troublé par la façon dont j'ai dû exposer tout ça. Bon, l'expression est terriblement inadéquate. Ce que je voulais dire simplement, pour le Marx de la maturité, c'est que l'aliénation permet de comprendre que la lutte des classes et ses aspects révolutionnaires proviennent tout simplement du fait que pour que l'homme tel qu'il est aujourd'hui, n'est-ce pas, le prolétaire par exemple, puisse tout simplement vivre, se développer, exister normalement, il est obligé de lutter contre le système capitaliste lui-même. C'est-à-dire qu'il représente effectivement la négation radicale de ce système. Pour vivre, pour prospérer finalement, le prolétaire est obligé de s'en prendre au système capitaliste et pas seulement au système d'exploitation lui-même, mais aussi à toutes ses formes idéologiques et politiques. Bon, c'est ça que je voulais dire. Oui.
Sur Althusser, tu as bien dit qu'il évacuait complètement la lutte des classes. Alors pour lui, comment la société évolue si l'homme n'a plus d'importance?
Non, c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi.
C'est pas. Je sais bien que c'est lui qui l'a dit, mais enfin, dans sa théorie à lui, alors, qu'est-ce que devient l'homme il a critiqué l'économisme aussi. Alors, il me semble que si on évacue l'homme dans le développement de l'histoire, dans la lutte des classes, s'il n'y a plus de lutte de classe, si l'histoire évolue simplement parce que les forces productives se développent, comment à la fois être critiquer l'économisme et critiquer l'humanisme?
Bon, alors je vais essayer de répondre, mais c'est pas facile. En réalité, je vais essayer de répondre en parlant d'abord d'Althusser. C'est un problème relativement compliqué parce qu'Althusser a écrit plusieurs choses contradictoires. Et évidemment, il ne réécrit pas à chaque fois qu'il écrit un livre le même livre qu'avant. Ça, c'est normal, sinon il n'écrirait pas souvent. Alors, dans son premier ouvrage conséquent, disons, pour Marx, il y avait une place pour la lutte des classes. Ça apparaissait. Dans Lire le Capital, je ne dis pas qu'il n'y a pas de place pour la lutte des classes, mais le mot n'y figure à peu près jamais. Ça n'y figure pas. Pourquoi? Parce que ça lui paraît une chose ambiguë, n'est-ce pas? Pour lui, les classes sociales, dans la science marxiste, ce ne sont pas des hommes qui font l'histoire. Les classes sociales, ce sont des concepts, n'est-ce pas? Et les concepts, ça ne fait rien. Bon. Ce sont des concepts qui nous permettent de comprendre comment l'histoire se fait toute seule. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que les classes, ce sont des rapports de production abstraits. Voilà. Ce ne sont pas des hommes. Les hommes n'y figurent que... si vous voulez... c'est sa théorie. Alors, son idée, c'est que... Et bien entendu, il subsiste des hommes. Mais d'une certaine façon... C'est une idéologie. Pour comprendre, pour aboutir à la connaissance, il faut se débarrasser de l'idée même d'homme, n'est-ce pas? Il faut se consacrer exclusivement à l'analyse des structures, et les classes font partie de ces structures, n'est-ce pas? Bon, alors, dans une période plus récente, Althusser s'est autocritiqué. Alors, Et en particulier, il a dit que toute sa philosophie pêchait par un côté, c'est qu'en voulant supprimer Hegel de Marx, il avait fait un retour à Spinoza. Bon, alors je ne vais pas parler de Spinoza, parce que ça n'a pas d'intérêt, mais il ajoute, en même temps que j'ai fait mon retour à Spinoza, j'ai éliminé finalement la contradiction, et par conséquent, j'ai sous-estimé la lutte de classe. C'est-à-dire que la lutte des classes, effectivement, n'apparaît plus au centre de la pensée. Bon. Alors c'est évidemment assez grave. Cela dit, cette autocritique ne débouche pas sur grand-chose, parce que maintenant il nous parle de la lutte des classes, non pas à tout bout de champ, mais presque exclusivement de la lutte de classes dans la théorie. N'est-ce pas ? C'est-à-dire que ça ne nous sort pas beaucoup des concepts. Cela dit, ce serait peut-être trop long d'en venir aux derniers ouvrages d'Althusser, je pense que ce n'est pas le problème fondamental.
Oui, mais ce que je vais demander, c'est s'il n'y a plus de lutte de classes, comment passer d'une structure à une autre structure ?
Mais c'est un problème qu'ils ne réussissent pas d'ailleurs très bien à élucider, n'est-ce pas ? Dans Lire le Capital, par exemple, il y a toute une contribution de Balibar qui dit « Il n'existe pas, dans le marxisme de la maturité, une théorie du passage d'un mode de production à un autre. Elle n'existe pas, il faut la faire. » Et alors, il l'a fait, mais il l'a fait de façon statique, hein, en disant « Bon, ben, il y a, dans une phase de transition, une combinaison de deux structures, une nouvelle et une ancienne, ce qui ne nous explique toujours pas comment la structure ancienne, en se reproduisant, se contredit et finalement éclate. Ça, ils ne l'expliquent pas et je crois qu'ils ne l'expliqueront jamais, parce que le problème, pour l'expliquer, il faut forcément en revenir à un moment ou à un autre à des catégories hegeliennes, même si on les comprend différemment. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure en disant que on risquait, avec cette affaire, de ne plus mettre le primat sur le caractère contradictoire d'une totalité, n'est-ce pas, ou d'un développement, mais sur le caractère, au contraire, cohérent de ce développement.
Je crois que pour répondre à ta question tout de même, Althusser a jamais dit « il n'y a plus de lutte de classe ». Dans son dernier ouvrage, il a dit « dans mes premiers ouvrages, j'ai évacué la lutte de classe », c'est-à-dire, et en fait, il faisait allusion à la coupure, il avait dit « la coupure », avant Marx, il faisait des élucubrations théoriques, hein, maintenant, il fait une science, c'est ça la coupure, de passer d'élucubration philosophique à une science, c'était ça la coupure. Et dans son dernier ouvrage, il dit, je me suis trompé en disant ça, la coupure, elle est du fait que Marx est passé d'un point de vue petit bourgeois libéral à un point de vue de classe prolétarien. C'est ça que dit Althusser.
Il va plus loin.
Oui, bon, enfin, ce qui me semble d'ailleurs exact dans la théorie, hein, comme toujours. De même qu'il dit, Althusser, dans la théorie, vous allez voir. Althusser, il dit, hein, l'homme ne fait pas l'histoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il y a eu une contradiction, il y en a une qui monte, le prolétariat, et puis un beau jour, le capitalisme va disparaître. Hein, mais le prolétariat, dans sa lutte, parce qu'il reconnaît la lutte de classe, mais on ne peut pas dire qu'il ne reconnaît pas la lutte de classe, mais il n'en est pas conscient. Ça se fait tout seul. Ça se fait sans qu'on veuille vraiment changer la société. C'est un mouvement comme une fourmilière grandit, comme un fœtus devient un adulte. C'est ça qu'il dit Althusser. Hein. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux, c'est que, en somme, d'après lui, l'homme n'aurait plus d'action sur l'histoire. Et d'ailleurs, c'est pas Althusser, c'est tout.
En tant que collectif, il y a une action, ce qui dit le premier position, les bases font l'histoire.
Non, alors attends, moi je connais bien la question, il dit pas ça. Vas-y. Comment ?
Non, juste un mot pour finir. Tout le PC dit la même chose. Et ça vient de quoi? Si tu considères qu'il y a une seule contradiction, le capitalisme et le prolétariat, il peut arriver qu'une chose, la victoire du prolétariat, t'as qu'une chose à faire, pousser à la roue de l'histoire. Tu t'occupes de rien du tout, tu pousses la roue de l'histoire, le capitalisme va s'en aller, le prolétariat va arriver. C'est ça la théorie du PC, c'est ça le danger d'Althusser. Alors que non, je pense que, parce qu'il a, même, tu l'as pas dit, mais Althusser, au niveau théorique, dit qu'il y a multiplicité des contradictions. Il rejoint la théorie de Mao sur la multiplicité des contradictions, mais jamais, jamais, il l'applique dans la société.
Oui, alors, je voudrais quand même en revenir très, très brièvement sur cette histoire de « les masses font l'histoire ». C'est sa dernière version. Dans sa dernière version, il oppose. Bon, c'est une polémique avec un marxiste anglais qui est assez proche de Garaudy en France, quoi, qui s'appelle John Lewis. Bon. Alors ce John Lewis disait l'homme fait l'histoire en transcendant ses conditions actuelles, ou à peu près ça. Alors évidemment, ça apporte pas grand-chose, en particulier l'idée de transcendance. Ça, évidemment, ça sent sa religion pas loin, n'est-ce pas? Alors il oppose à ça, non, les masses font l'histoire, et il ajoute, c'est pas du tout la même chose que de dire les hommes font l'histoire, ou même que le prolétariat, par exemple, fait l'histoire. Parce que les masses, ça n'existe pas comme sujet, n'est-ce pas? Les masses, c'est plusieurs classes sociales, c'est pas une classe sociale. Et par conséquent, ça n'a pas conscience de soi en tant que masse, etc., etc. Par conséquent, les masses, ce ne sont pas des réalités existantes, hein, ce sont des concepts que théoriquement on élabore en faisant la théorie des classes sociales et de leur alliance possible à un moment ou à un autre. Bon, et il ajoute, il y a une deuxième expression de la même idée, qui est le début du manifeste communiste, la lutte des classes est le moteur de l'histoire. Et il dit, ce qu'il faut voir dans cette affaire, c'est que ce ne sont pas les classes qui font l'histoire dans l'expression « la lutte des classes est le moteur de l'histoire ». Ce qui est important, ce n'est pas les classes, c'est la lutte. Et elles ne font pas l'histoire, simplement la lutte est le moteur de l'histoire. Alors on aboutit à la théorie, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il faut étudier le moteur de l'histoire, de même qu'un technicien s'occupe des moteurs, et ce moteur, il n'est pas dans les classes qui font l'histoire, mais dans la lutte entre ces classes. Voilà. Alors ça aboutit quand même à un résultat un peu similaire. C'est-à-dire que, en définitive, ce que font les hommes, les classes sociales aujourd'hui, ils sont finalement, d'une certaine façon, ils s'en occupent pas, ça n'intéresse pas. Vous ne verrez pas d'ailleurs chez Althusser, par exemple, quand il parle des conditions actuelles, n'est-ce pas, vous ne le verrez pas parler concrètement de mai 68 ou de la grève de Lippe, par exemple. Ça n'intéresse pas, n'est-ce pas? C'est parce que théoriquement, ça ne rentre pas dans ces schémas. Il conçoit tout le marxisme comme une théorie qui se développe à l'intérieur d'elle-même. Il y a extériorité complète entre la théorie et la pratique des hommes. Alors évidemment, ça conduit nécessairement à des schémas qui ne sont pas les schémas staliniens, parce qu'ils sont plutôt technocratiques que bureaucratiques, n'est-ce pas? C'est le théoricien qui va élaborer la bonne stratégie, parce que lui, il connaît le moteur qui fait l'histoire, n'est-ce pas? Et alors, si tout va bien, eh bien, il y aura bien quelques hommes pour le suivre, et peut-être qu'on pourra accélérer le cours des choses. Encore, c'est difficilement pensable dans cette théorie. C'est-à-dire qu'on aboutit à une théorie comme quoi ce qui doit tout commander, ce sont les théoriciens, et puis alors, il y a le prolétariat qui fera ce qu'il pourra dans toute cette affaire. Alors évidemment, il ne dit pas sous cette forme-là, tout simplement parce qu'il ne pose jamais le problème au fond. Il ne peut pas le poser au fond parce qu'il aboutit à une série d'absurdités ou de choses difficilement compréhensibles ou explicables.
Tout à l'heure, tu as exprimé les positions d'Althusser sur les positions d'Althusser par rapport au 20e congrès, et tu as dit que d'après lui, il y avait deux déviations. Staline, c'était l'économiste, et Khrouchtchev, l'humanisme. Il n'a pas exprimé un jugement sur cela. Or, ce n'est pas notre affaire. Il faut savoir si oui ou non Althusser a raison. Enfin, c'est un autre problème que celui qui vient d'être débattu à l'instant. Hein. Savoir si oui ou non il a raison en disant qu'il s'agit d'une résurgence des déviations de la social-démocratie. En dehors des concepts d'Althusser qui me semblent erronés dans d'autres domaines qui viennent d'être débattus, il me semble que là il y a un point important et qui est exact mais pas complet. Car effectivement, les théories de Staline d'une part et celles de Khrouchtchev d'autre part sont des ressurgences différentes, contradictoires, mais de la social-démocratie. Et ceci n'est pas neutre de dire cela, car en particulier la voie pacifique au socialisme n'a pas été émise par Khrouchtchev le premier, mais par Maurice Thorez en 1946. Et à l'époque, Staline s'y est opposé avec une fraction du Parti communiste français, en particulier André Marty, Janet Vermeersch et d'autres dirigeants. Or, pourquoi il y a eu ce changement? C'est qu'à l'époque de Staline, il y avait des rapports sociaux bourgeois qui étaient maintenus et contre lesquels Lénine avait dit qu'il faudrait lutter contre dans l'État et la Révolution, mais que, inévitablement, pendant la période de transition au socialisme, les rapports sociaux bourgeois continuent d'exister malgré le mode de propriété socialiste. Par rapports sociaux bourgeois, on entend par exemple la division hiérarchique du travail, le fait qu'il y a des hommes qui commandent et d'autres qui sont commandés, etc. Lénine insistait sur le fait
qu'il était illusoire et anarchiste de croire que ceci pouvait être supprimé. Néanmoins, il fallait lutter contre au fur et à mesure de la transition au socialisme. Or cela, Staline ne l'a pas fait. Néanmoins, il ne poussait pas à l'extension de ses rapports sociaux bourgeois. Et là, au 20e congrès, il y a eu un palier, il y a eu une mutation. Par exemple, au 20e congrès, les facteurs d'émulation idéologique dans le travail ont été supprimés de la littérature et de la pratique du Parti communiste soviétique et remplacés uniquement par les facteurs matériels et d'autres choses du même type. Il y a eu également la crise de mai 57 entre Kaganovitch, partisan, disons, des méthodes de Staline, et Mikoyan, partisan de Khrouchtchev, qui a abouti à la victoire du groupe Khrouchtchev-Mikoyan et à l'élargissement de l'échelle des salaires qui était déjà grande sous Staline. Tout ça, ce sont des choses très concrètes et qui vont très loin. Or, il est évident que si les premiers concepts sur la voie pacifique au socialisme, la voie parlementaire, ont été mises par Maurice Thorez, c'est que précisément les ressurgences de la social-démocratie étaient plus fortes encore dans les partis communistes occidentaux, en particulier dans le Parti communiste français, que dans le Parti communiste de l'Union soviétique. Or là-dessus, bon, puisque tu as abordé le problème, et je pense que tu as eu raison de l'aborder, il faudrait émettre un avis, et je pense que là-dessus, Althusser est loin d'avoir tort de dire qu'il y a résurgence de la social-démocratie. Et donc, s'il y a eu résurgence de la social-démocratie dans le mouvement communiste, c'est-à-dire en général, il y a de très grandes possibilités de la résurgence de la social-démocratie dans tout le mouvement ouvrier, avec ce que cela doit comporter comme conséquence de réflexion, si on admet ça. Néanmoins, je pense que là où Althusser se trompe, enfin, ou du moins c'est incomplet sa théorie, c'est quand il ne voit pas qu'il ne s'agit pas seulement de la résurgence des idées de la social-démocratie dans le Parti communiste soviétique, mais qu'il y a autre chose, il y a une question de lutte. C'est-à-dire que si les rapports sociaux bourgeois se sont maintenus sous Staline, c'est qu'il y avait, dans les conditions de l'encerclement de la Russie, etc., qui ont été développées par différents théoriciens, et peut-être aussi par d'autres, la question de la trahison ou non des objectifs du Parti bolchevique à la mort de Lénine, bon, quelles que soient les causes, il est évident qu'il y a eu une couche sociale qui profitait de ces rapports sociaux bourgeois et les maintenait contre le prolétariat. Ensuite, au 20e congrès, il y a eu un palier, il y a eu une mutation, et même très importante mutation, un changement même pratiquement de régime, enfin du moins dans une grande partie du régime, avec un élargissement et un approfondissement des rapports sociaux bourgeois. Là, Althusser, d'après du moins la façon dont tu as présenté Althusser, si je ne connais pas Althusser, mais la façon dont tu l'as présenté, ça veut dire que pour lui, il n'y a pas ce phénomène de lutte en URSS. Cela vient seulement des résurgences des idées social-démocrates. Or, ceci me paraît un point extrêmement important et profondément juste, et qui concerne en particulier les partis communistes des pays d'Europe occidentale et aussi l'URSS, parce qu'il y a liaison théorique et politique entre les deux. Mais il y a en plus, que Althusser ne verrait pas si ce que tu as présenté est exact, c'est la lutte en URSS sur la question des rapports sociaux bourgeois, la lutte pour les détruire, ou au contraire pour les maintenir, ou encore pire, pour les développer.
Je crois que, enfin, moi je voudrais bien répondre, mais il a dit que je réponds.
Non, mais vas-y.
Non, mais je crois qu'il y a une part, d'abord, il y a une part tout à fait juste dans ce que tu dis, qui est très importante. Ça, c'est à propos d'Althusser. Quand il dit que Staline, c'est la déviation économiste, et que, bon, Khrouchtchev, c'est un degré de plus, d'ailleurs, tu as raison, il le dit, hein, c'est la déviation humaniste. Bon. Il y a quand même quelque chose qui va très mal dans cette affaire, c'est que il parle pas seulement des théories de Staline, n'est-ce pas ? Il parle du stalinisme, c'est-à-dire que pour lui, le stalinisme, c'est une déviation théorique. C'est une déviation, même pas théorique seulement, une déviation philosophique, n'est-ce pas ? C'est une version édulcorée d'un nombre considérable de morts. Bon. Je ne pense pas que ce soit le bon moyen, effectivement, d'analyser la chose. En admettant que ça soit seulement, ou que ça soit essentiellement une déviation théorique, les déviations théoriques, les idéologies, elles ne descendent pas du ciel, elles sont l'expression de rapports sociaux, n'est-ce pas ? Alors ce qu'il faut, c'est analyser les rapports sociaux dans la société stalinienne, leurs contradictions, et ce que ça peut devenir. Bon, ça, bien entendu, il n'en est pas question du tout, et tu as tout à fait eu raison de souligner cet aspect, c'est-à-dire que cette caractérisation du stalinisme supprime la lutte. Et tout d'ailleurs pour la lutte contre l'humanisme. Alors, par contre, je ne suis pas, moi, d'accord du tout avec la façon dont tu parles du 20e congrès et d'ailleurs comme de la façon dont en parle Althusser. Je ne pense pas, pour ma part, que le 20e congrès, ça soit un pas de plus vers la social-démocratie. Alors d'un côté, il subsistait les déviations qu'on peut qualifier d'humanistes, et puis alors ça se complète par la déviation, de l'économisme, on passe à l'humanisme, mais on passe un degré de plus dans le glissement vers la social-démocratie. Moi, je pense que c'est aller vite en besogne. Il est clair que le mouvement communiste international a fait, ça c'est vrai, on le voit en France, on le voit en Italie, on le voit partout, n'est-ce pas, a fait un pas de plus vers la ressemblance avec un parti social-démocrate. Ça c'est vrai. Mais dans le 20e congrès, dans ce que ça voulait dire pour les gens qui habitent dans les pays de l'Est, et y compris dans ce que ça voulait dire pour les militants politiques dans les pays occidentaux dominés par le capitalisme. Le 20e congrès avait une autre signification, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'à travers le 20e congrès, on n'est pas obligé, c'est pas une fatalité d'aller vers l'idée d'un glissement progressif vers la social-démocratie sur une base humaniste sur le plan théorique, ce qui donne sur le plan politique, n'est-ce pas, un glissement social-démocrate avec l'idée de la démocratie avancée, quoi, c'est ça que ça veut dire. Bon, on n'est pas du tout, le 20e congrès ne conduit pas forcément à cela. Il a aussi permis de restituer au marxisme, non pas sous une forme achevée, théoriquement complète et politiquement organisée, c'est surtout ça le problème, n'est-ce pas, mais il a aussi permis de redécouvrir le communisme dans toute sa radicalité. C'est quand même après le 20e congrès que se sont développés dans le monde, de façon très diverse, aussi bien à l'est qu'à l'ouest, dans les pays sous-développés que dans les pays développés, de nouveaux mouvements anticapitalistes, révolutionnaires et absolument radicaux. Il ne faut pas s'imaginer, par exemple, que le PSU et le socialisme autogestionnaire n'a pas une dette à l'égard du 20e congrès. Le 20e congrès, c'est quelque chose de profondément, disons, contradictoire. Bon, c'est dans les pays communistes et dans les partis communistes, c'est la tendance social-démocrate qui tend à l'emporter. Mais le 20e congrès n'a pas eu seulement cette signification. Bon, j'ai fait une espèce de plaidoyer, mais je suppose que tu voulais dire quelque chose.
Oui, parce que tu as fait une intervention assez complète, là, mais... Je crois que tu as mal interprété un certain nombre de choses. Tu t'es référé, par exemple, à ce qu'avait dit Maurice Thorez en 1946. Bon, c'est une période que je connais bien, et pour cause. Je crois que c'est pas du tout ça. Il y a une période, 1946, ça précède la rupture entre l'URSS et, disons, les États-Unis... la France, etc., enfin les démocraties occidentales, les démocraties bourgeoises. C'est une période qui précède la coexistence pacifique. Il y a une espèce de coexistence pacifique à cette époque. On sort de la guerre, de l'alliance. Maurice Thorez fait un faux pas. Un faux pas. Il interprète. Il interprète cette période comme quelque chose de durable. Et... il va trop vite dans l'expression d'une idée politique. D'ailleurs, il ne va pas si loin que tu le dis. Il dit simplement, il y a d'autres chemins pour aller au socialisme. Nous n'imiterons pas nécessairement le chemin qu'ont suivi les communistes de l'Union soviétique. Et puis, brusquement, c'est la rupture qui intervient aussitôt qu'il y a le plan Marshall, enfin l'offre de plan Marshall. La cassure, les partis communistes sont remis au pas et ils prennent l'idéologie de la guerre froide, de ce que les autres appelleront la guerre froide, et on revient alors à l'expression la plus dure de l'idéologie communiste, et immédiatement il y a la rectification de Maurice Thorez. Alors dire que c'est en rapport avec la social-démocratie, je ne crois pas, c'est simplement en rapport avec une certaine politique internationale de l'Union soviétique. À cette période, bon, ça change, et immédiatement la ligne de Maurice Thorez et la ligne du Parti communiste et des partis communistes en général à cette époque, maintenant c'est un peu plus complexe, change. Quant à la déviation économiste humaniste, je crois que von de Baldan a parfaitement raison de souligner qu'on ne peut pas dire que le stalinisme se réduit à une déviation théorique. C'est passé par-dessus toute une série de choses. C'est en même temps camoufler ce qu'il y a d'essentiel dans le stalinisme. J'ai un peu abordé le problème du stalinisme dans l'exposé que j'ai fait, je ne sais pas si tu étais là, à la séance inaugurale du centre, en disant, bon, je résume très, très brièvement, probablement, c'est une hypothèse qu'on peut faire pour le moment, le stalinisme était en germe dans l'abandon de l'autogestion ouvrière. L'autogestion ouvrière a existé quelques mois après la révolution de 1917, c'est-à-dire que les ouvriers ont eu le contrôle des usines, ils ont eu la gestion des usines, et on leur a très rapidement retiré par la nomination des directeurs et ayant tout pouvoir, et par le fait que c'est l'État central qui a réglé d'en haut tous les problèmes de la production, tous les problèmes des salaires, des normes de travail, etc. Il s'est créé dans le Parti communiste soviétique une opposition ouvrière sur la base justement de la revendication du contrôle ouvrier et de la gestion ouvrière. Cette opposition a été interdite au congrès de 1921 et on a assisté à une bureaucratisation de plus en plus évidente de tout le mécanisme politique et de tout le mécanisme économique de l'Union soviétique. Et bon, c'était pas le stalinisme, mais il était en germe à partir de ce moment. Alors je crois qu'on ne peut pas, et ça se rattache directement à la théorie de l'aliénation, je crois qu'on ne peut pas réduire le stalinisme ni au culte de la personnalité, bien sûr, comme le Parti communiste a essayé de le faire, au culte de la personnalité de Staline, ni comme Einstein le dit aujourd'hui, à une arriération, un phénomène d'arriération historique, et de plus phénomène qui serait typiquement russe, parce que c'est un phénomène international et pas typiquement russe. Et on ne peut pas non plus, encore moins, réduire le stalinisme à une déviation théorique, déviation théorique qui serait de surcroît le retour à l'économisme humaniste, parce que c'est les deux en même temps, c'est pas Staline qui serait économiste et Khrouchtchev qui serait humaniste. C'est pour lui l'humanisme théorique et le couple qui va avec l'économisme. C'est inséparable. Donc Staline serait aussi un humaniste. Dans la théorie d'Althusser, Staline est coupable de la déviation humaniste. Effectivement, il a dit l'homme est le capital le plus précieux, mais enfin, l'appeler pour ça humaniste, c'est un peu excessif.